France Musique.
Musique et moi.
Gaspard Ndioc.
Elsa Boublil.
Le monde est ma représentation. C'est une vérité qui vaut pour tout être vivant et connaissant, encore que seul l'homme puisse l'apporter à la conscience réfléchie et abstraite. Et quand il le fait, effectivement, il accède à la réflexion philosophique. Tout ce qui appartient ou peut appartenir au monde est inévitablement marqué par ce conditionnement. Par le sujet, il n'existe que pour le sujet. Le monde est ma représentation.
Arthur Schopenhauer, le monde comme volonté et représentation. C'est sur cet air si célèbre de Tosca, interprété par Maria Callas, que nous vous accueillons Gaspard Ndioc, illustrateur, auteur de deux bandes dessinées, Un voyage sans retour, qui raconte les désillusions d'un migrant en Italie, un livre qui a connu un grand succès, puis tout récemment, La Callas, l'enfance d'une diva, paru chez Nouveau Monde Éditions, qui nous fait découvrir l'enfance de cette grande diva, les ruptures, l'exil. Très belle bande dessinée dans laquelle on découvre aussi La Callas à travers sa propre découverte de la musique. Bonjour Gaspard Ndioc.
Bonjour Elsa.
Vous êtes illustrateur, vous avez grandi au Cameroun, que vous avez quitté à l'âge de 21 ans, après avoir remporté un concours de dessin. Et cet air, Vici d'arte, j'ai vécu d'art et d'amour, fait partie de vos premiers émois musicaux. Mais la première fois, en fait, il me semble, c'était dans l'interprétation de Sonia Yoncheva.
Oui, oui. J'aime beaucoup cette interprétation. surtout son diminuendo dans cette air, lorsqu'elle le fait, bon, elle, je sais pas, le sien me touche beaucoup. C'est pas cette air qui m'a, comment ça, qui m'a apporté à la musique, hein, parce que avec la musique c'était autre chose, mais Sonia Yoncheva, je pense que j'ai écouté cet extrait, c'était aux États-Unis, au Met, qu'elle interprétait cette air. Et pour moi, c'était la grande découverte avec l'artiste. Et puis depuis ce jour, tout ce qu'elle fait m'intéresse et j'écoute tout ce qu'elle chante partout dans le monde. Elle est fantastique.
Alors, la Calas, évidemment, vous avez compris que c'était pas par hasard que je l'ai choisi pour ouvrir cette émission, puisque vous avez réalisé une très belle BD consacrée à la Calas. Qu'est-ce que vous pensez de cette interprétation qui est celle qui revient d'ailleurs parmi mes invités le plus souvent?
Ma Calas, elle a toujours quelque chose en plus par rapport aux chanteurs de cette époque-là, que voilà, c'est une chanteuse qui apporte le théâtre, comme ça, à l'opéra. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut aimer du point de vue vocal, Maria Callas, ce qu'elle amène vraiment, c'est la vérité. Et je pense que dans ma bande dessinée, j'en parle aussi, je dis quelqu'un avec l'enfance aussi difficile qu'elle a eue, je pense qu'elle a su, avec ses expériences personnelles, apporter de la vérité à l'opéra. Bon, avec cette idée un peu de bel canto, où on va faire des courbes parfaites et tout, Maria Callas, voilà, c'est la vérité à l'opéra.
On va pouvoir s'en parler tout au long de cette émission, puisque vous avez consacré un très bel ouvrage à Maria Callas, Maria Callas, La Callas, l'enfance d'une diva, parue chez Nouveau Monde. Cette citation de Schopenhauer, en quelques mots, pourquoi nous citer un extrait du Monde comme volonté et représentation, Gaspard Njok?
Le Monde comme volonté et représentation, déjà, c'est un ouvrage, c'est un des ouvrages qui m'ont beaucoup marqué aussi quand j'étais au lycée. Et un professeur m'en avait parlé et il m'a dit « Je ne pourrais pas t'en dire plus parce que c'est un auteur difficile à comprendre, il est ambigu. » Donc je t'ai dit « Un jour, quand tu seras plus grand, il faut le lire. » Et lorsqu'on est enfant, lorsqu'on vous présente des interdits comme ça, c'est comme lorsque vous êtes jeune, c'est comme pour vous dire, c'est comme pour vous inciter à braver cet interdit. Donc c'est ce qui m'a un peu poussé à vouloir vous présenter ça aujourd'hui. Qu'aujourd'hui encore, Schopenhauer, c'est un auteur qui me touche parce que bon, voilà, c'est un auteur qui met la musique au-dessus de toutes les autres formes artistiques. Et lui, il dit ça dans plusieurs de ses textes, la musique est au-dessus de toutes les autres formes artistiques.
Gaspard Njok, vous êtes l'invité de Musique et Moi ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique. On va avoir le loisir et le temps d'évoquer toutes ces questions fondamentales et importantes. La musique semble centrale dans votre vie. On en parle tout de suite après le prélude de Lohengrin de Richard Wagner. Le prélude de Lohengrin de Richard Wagner par l'orchestre de Philadelphie sous la direction de Christian Tillmann. Alors Liszt, qui a dirigé le premier cet opéra en 1850, a qualifié cette ouverture d'une sorte de formule magique qui, comme une initiation mystérieuse, répare nos âmes à la vue des choses inaccoutumées et d'un sens plus haut que celle de notre vie terrestre. C'est un de vos premiers souvenirs musicaux et moi musicaux, Gaspard Njok. D'ailleurs, je vous ai vu parce que on va préciser aux auditeurs que c'est encore une émission fabriquée de manière artisanale. C'est Xavier Atto qui est au studio 451 de la Maison de la Radio. Jean-Charles Dieval chez lui. Vous êtes chez vous à Paris et moi chez moi. Et on se parle de manière un peu compliquée. Donc on se voit heureusement par Zoom. Et je vous ai vu lâcher tout, réunir vos mains. C'est un souvenir fort, visiblement.
Oui. C'est Lohengrin pour moi aussi. C'est Paris tout de suite. C'est bizarre, mais Paris, parce que Wagner aussi, c'est très parisien comme il est très parisien comme compositeur aussi. Et c'est à Paris que je me suis rendu compte, de la force des opéras wagnériens. Et tout de suite, j'ai été saisi par, tant que je connaissais encore rien à la musique, surtout wagnérienne, et j'ai été saisi surtout par ce côté un peu de transition, je ne sais pas quand est-ce qu'il est dans les cordes, il passe des cordes au cuivre, il y a une sorte de confusion comme ça. Bon, pour moi, déjà pour l'époque, ça c'était inouï comme sonorité. Et pour moi encore, ça reste ainsi. Je prends juste un petit exemple. Moi, je vis dans le 10e, hein, qui est un quartier assez particulier. Et lorsque j'écoute Lohengrin, ça me réconforte beaucoup. Je sais pas, il faudrait faire des recherches sur sur la musique wagnérienne, parce qu'il y a quelque chose de très fort dans cette musique qui te permet aussi de relativiser certaines choses. Comment dire ça ? Moi, ça me donne beaucoup de courage. Il y a beaucoup de peurs que j'ai vaincues grâce à ça.
Vous aviez quel âge quand vous avez découvert Lohengrin, Gaspard Njok ?
J'avais 24 ans.
Et ça reste un des premiers émois musicaux forts qui vont sans doute vous pousser vers ce que vous faites aujourd'hui.
Oui. Pour moi, c'est la musicologie qui m'a poussé à la musique. C'est l'étude de la musique. C'est quand j'étais à l'université. Je pense que si j'avais pas fait l'université, j'aurais pas aimé l'opéra aujourd'hui. J'aurais pas aimé la musique classique. C'est en faisant de la musicologie que je me suis vraiment intéressé à la musique, et ça s'est fait à Paris 4.
Arrivé à Paris à l'âge de 21 ans, d'origine camerounaise, Gaspard Njok est notre invité ce matin. Il vient d'écrire une BD sur la vie de Maria Callas. On continue d'en parler dans Musique et moi, sur France Musique. Thank you. La Moldau, extrait de Mavlast de Smetana par l'Orchestre Philharmonique Tchèque, dirigé par Jiří Belohlávek. C'est une œuvre composée par Smetana à l'âge de 50 ans, juste après être devenu sourd, en l'honneur de son pays. Je le cite, « Deux petites sources jaillissent à l'ombre de la forêt, l'une chaude et agile, l'autre froide et endormie. Elles s'unissent, leurs prestes vaguelettes clapotent entre les cailloux et vibrent au soleil. Dans sa course hâtive, le torrent devient une petite rivière, la Vltava qui se met en route à travers le pays tchèque dans un bruissement toujours plus ample. » C'est vrai qu'il y a quelque chose de très illustratif. C'est votre deuxième souvenir, je crois, Gaspard Njok.
Oui. J'écoute beaucoup de la musique quand je travaille, particulièrement lorsque j'écoute du Moldau. J'ai cette sensation que les couleurs se commencent à comme les instruments dans les couleurs des instruments des orchestres mélangent. J'ai l'impression lorsque je mélange les couleurs qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe aussi du point de vue aussi de sur ma palette de dessin. Il y a quelque chose de similaire qui se passe. Donc il y a une sorte de correspondance comme ça dans ce que je fais et ce que j'entends. Donc Di Moldau me donne cette sensation-là très souvent lorsque je travaille.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On a dit que vous avez grandi au Cameroun, Gaspard Njok. Par rapport aux musiques que vous avez pu entendre, vous, enfant, ces nouvelles couleurs musicales, comme les couleurs de la palette, ça a été un apprentissage ou ça vous est venu assez directement?
Ça m'est venu naturellement parce que je suis pas... quand je suis venu en Europe, c'est pas à Paris que je suis arrivé pour la première fois. Je suis arrivé en Italie, où j'ai fait mes études en art de spectacle, performing art, et j'étais spécialisé sur l'opéra. Et c'est en travaillant sur l'opéra que bon voilà, je me suis mis à écouter de la musique d'opéra comme ça, et petit à petit les choses sont faites naturellement, parce qu'il y a quelque chose quand même, je pense que dans toutes les cultures qui vibrent à l'unisson, lorsque dans toute la musique il y a quelque chose quand même qui est particulier, et c'est ce qui a fait en sorte que je, même si j'arrive avec une culture différente, que je suis quand même ouvert à accepter cette nouvelle culture à travers surtout la musique, hein. C'est la musique, surtout à travers la musique. Donc, ça s'est fait naturellement et ça s'est fait à travers l'opéra italien d'abord. Avec la musicologie, je suis arrivé à Wagner, mais de manière intuitive, c'était Rossini, c'était
Pergolèse,
c'est le premier avant tout. Et après, il y a Verdi. Bon, voilà, ouais. Ça s'est fait de cette manière.
Je propose qu'on écoute du coup tout de suite Pergolèse dans le Stabat Mater, interprété, ça va vous plaire, par Karine Bey et Sonia Yuncheva.
Thank you.
Sonia Ioncheva et Karine Dehé interprètent le Stabat Mater en fa mineur de Pergolèse avec l'ensemble Amaryllis sous la direction de Violaine Cochard. Vous le disiez, ça a été le tout premier compositeur, la toute première musique dans votre vie. Comment ça s'est passé, Gaspard Njok, musique occidentale bien sûr?
Alors, je me retrouve étudiant dans le couloir de l'université La Sapienza de Rome, où mon programme d'université était seulement du point de vue visuel, c'est-à-dire des programmes de cinéma, de films, histoire de l'art. Je me promène dans ce couloir de La Sapienza pendant, je me rappelle, c'était l'été, et j'entends à travers derrière une porte au piano les notes de Stabat Mater. Et j'ouvre la porte, je vois qu'il y avait un cours de musique derrière. Et je rentre, je me referme et j'écoute le cours jusqu'à la fin. C'était sur Pergolèse. Et à partir de ce jour-là, j'ai changé tout mon programme universitaire d'études. J'ai mis tout ce qu'il y avait de musique possible. Et quand c'était plus possible, ce que j'ai fait, c'était de demander d'être inscrit à la Sorbonne. Parce que là-bas, il y avait plus de cours en musique. C'est pour ça que c'est cette manière que je quitte Rome.
Mais ça s'est fait comme une révélation. Alors, c'était d'une puissance inouïe.
Oui, Stabat Mater Pergolèse, ça a été vraiment pour moi une évidence. C'est-à-dire, c'était comme maître de la parole sur les émotions et tout. Ça s'est fait comme ça et c'est une révélation. J'ai tout changé. Aujourd'hui, ma vie s'est faite autour de la musique. La musique, pour moi, est vraiment structurante dans tout ce que je fais. C'est une forme d'érudition, c'est une forme d'approche avec comprendre le monde, même de socialisation, comprendre l'autre. J'aborde toujours ça avec la musique. Même quand je peins, derrière, il y a toujours, de manière structurelle, des intentions musicales.
Pourquoi avez-vous quitté le Cameroun à l'âge de 21 ans, Gaspard Njok?
J'avais reçu une bourse pour une école de dessin à Rome. Voilà, c'est cette bourse qui m'a fait quitter le Cameroun. Je pense que si je n'avais pas reçu cette bourse, peut-être je serais quand même venu d'une manière ou d'une autre en Europe, en Afrique, surtout au Cameroun, en Afrique francophone, on grandit avec cette idée, pas cette idée, c'est une évidence, on parle français au Cameroun, et comme des tournesols comme ça, qui sont retournés vers le soleil, nous on est projetés vers l'Occident. Donc pour nous, l'Occident c'était le moyen pour me représenter moi-même, pour être faire ce que je fais, pour vivre quoi. Moi j'ai eu la chance par rapport à tant d'autres personnes qui, avec cette même force ou engouement, finissent au fond de la Méditerranée. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir une bourse et c'est ce qui m'a fait quitter l'Afrique dans des conditions disons plus acceptables.
Sans doute pour ça aussi que vous avez écrit votre première BD dont on parlera tout à l'heure, mais je propose qu'on écoute tout de suite le cœur des esclaves de Nabucco. Un beau prolongement de ce qu'on vient de se raconter, la liberté.
Ouais.
L'orchestre et le chœur du théâtre de la Scala de Milan sous la direction de Claudio Abbado interprètent Va pensiero sulla Elli Dorate, l'acte 3 de Nabucco de Giuseppe Verdi. On parlait de liberté. On évoquait aussi tout à l'heure, Gaspard Njok, c'était très joli votre image, le tournesol, comme le tournesol qui suit le soleil. C'est un horizon qui se profile. Quand on a grandi au Cameroun, l'Occident est un horizon peut-être de salut même. Est-ce que c'est un horizon de liberté?
Ben oui, c'est les hommes se déplacent toujours avec cette volonté de liberté. Je me dis, c'est ça aussi qui est souvent même à la base de tout déplacement, de toute volonté, de même dans la recherche de l'autre, de soi-même. Il y a toujours cette quête de liberté. C'est vraiment un moteur. C'est quelque chose qui nous permet d'entreprendre nos choix, ce qu'on veut trouver, ce qu'on veut retrouver. Donc, au départ, il y a toujours quelque chose de cette idée-là.
Et alors vous avez pris une double liberté, puisque donc c'est cette bourse qui vous permet d'arriver à Rome, et que sous le choc de Pergolèse, alors que vous apprenez l'art illustratif, on pourrait dire les choses comme ça, tout d'un coup la musique s'impose à vous comme une nouvelle vérité, c'est ça? Au-dessus même de l'art graphique?
Oui, au-dessus, parce que c'est ça que j'aime Schopenhauer, comme c'est un philosophe de cette époque-là, comme qui met toujours la musique au-dessus des autres formes artistiques. Et c'est mieux dit que n'importe quelle forme d'art, ce que le cœur ressent, les sensations du cœur, les intuitions du cœur. Donc, même si elle ne dit pas les choses de manière précise, elle connaît fort bien notre intuition. C'est pour ça que même en tant qu'illustrateur, dans mes recherches que j'ai même faites dans le domaine académique, c'est d'essayer de comprendre. Je fais un doctorat sur la correspondance entre le visuel et le sonore. Je travaille sur ça et c'est ce qui me permet. C'est vraiment la musique. Elle est vraiment structurante. Et ce qui est aussi important pour moi, c'est de l'érudition qu'on a à travers la musique. Pour moi, déjà à travers l'opéra. Il y avait, quand je regarde par exemple une œuvre comme la Traviata, où bon voilà, ce n'est pas seulement Violetta qui se sacrifie et tout, c'est aussi les valeurs de la famille. C'est quelque chose qui repousse un peu, c'est quelque chose de fort, mais fort au point où ça peut rejeter certaines personnes, comme ça a été le cas de Violetta. Mais dans plusieurs opéras, il y a plusieurs valeurs fondamentales qu'on peut comme ça retirer. Un dernier exemple, c'est celui qui me vient en tête, là, le cas de Rosine dans Le Barbier de Séville. Pour moi, j'ai dit aux gens que Rosine, c'est une vraie féministe, dans mon avis, parce que c'est une femme très, 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 très forte. Par exemple, cette terre où elle dit « Una voce pokefa ». « E cento trappole, prima di cedere, farò giocare ». Donc, dans cette partie-là, elle dit qu'elle veut se battre avec tous les moyens qu'elle a pour faire valoir ses intentions. Et pour moi, j'ai dit, déjà à cette époque-là, écrite comme ça, et j'ai dit, voilà, c'est du pur féminisme. C'est pour ça que je vais dire, les opéras aussi, si on les écoute bien d'une autre manière, il y a aussi une érudition qui peut passer à travers ces contenus-là.
Et vous évoquiez les correspondances, mais je crois justement, en termes de correspondance, ce cœur des esclaves vous a renvoyé à quelque chose de votre culture.
Vraiment, il n'y a pas de calcul dans ce que j'ai dit là. Ce sont des choses qui se font naturellement, des allers-retours comme ça. Et j'écoute le cœur de Va pensiero et j'écoute cette musique camerounaise, Yavé. Quand je l'écoute, je pense à ce cœur-là et vice-versa. Je ne sais pas pourquoi, je me suis posé la question moi-même et lorsque je suis allé vérifier, je vois qu'il y a quelque chose vraiment qui, même dans ces chansons qu'on chante généralement au Cameroun, durant la période de Pâques, c'est une sorte d'offrande que des personnes donnent une forme de reconnaissance à Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose de similaire. C'est vraiment toute mon enfance au Cameroun, ça aussi.
On l'écoute un peu?
Ah oui, c'est parfait.
Joseph Monté dirige Yahweh Kowa avec le chœur de musique chrétienne camerounaise de la tribu des Bamiliké. C'était un concert donné en 2016 à la Philharmonie de Paris. Ça, j'imagine que vous le disiez, c'est pas volontaire, ces correspondances s'imposent à vous. Mais quand le lien peut se faire, il y a quelque chose qui se passe, j'imagine, pour vous, Gaspard Njoke.
Oui, que ça se passe, parce que c'est ce que je disais aussi, pas seulement d'un point de vue esthétique. Tout ce qu'on fait, que ce soit dans la musique et dans la peinture, on a la recherche du beau, et le beau n'a pas qu'une fonction à soi-même, il y a aussi quelque chose d'éthique dans la beauté. À travers la beauté, on met les personnes ensemble, à travers la beauté, on crée du partage, et ce n'est pas juste des paroles en l'air comme ça, on s'en est rendu compte aussi même durant la période de confinement, que vraiment les théâtres manquaient, les gens avaient besoin d'écouter des belles symphonies, donc tout ça manque. Donc, et paradoxalement, on se rend compte de l'importance de ces choses lorsque vraiment on est dans ces conditions un peu dramatiques comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est qu'un monde sans musique? Qu'est-ce qu'un monde sans peinture? Donc, ce qui me plaît vraiment dans tout ça, c'est que bon, voilà, c'est la beauté avec une sorte de fonction comme ça éthique qui met les gens ensemble, de partage. Il y a quelque chose de très beau dans ça.
Et puis, il y a aussi le lien aux racines qui se fait, donc le déracinement et donc l'exil. Vous avez écrit une première bande dessinée qui s'appelait Un voyage sans retour, qui était tragique parce que ça raconte l'exil de l'Afrique vers l'Italie avec le danger de la disparition en cours de voyage, la mort qui est là à tous les coins de ouais, à tous les moments. Et cette histoire de Maria Callas aussi qui raconte l'histoire d'un exil, qui raconte l'histoire d'un exil à l'envers, où l'on retourne à ses racines. Vous y êtes très sensible, Gaspard Njoke.
Oui, parce que je pense que dans le monde aujourd'hui, par exemple, je suis une personne un peu déracinée, même si aujourd'hui je m'identifie beaucoup à travers la culture occidentale, parce que ça a été mon enfance. C'est-à-dire, j'ai dit très souvent que à 10 ans, j'avais presque le même programme scolaire qu'un jeune garçon qui vivait à des dizaines de kilomètres parfois moi, quelque part à Paris. On avait le même programme, on avait les mêmes horizons, on rêvait des mêmes auteurs, seulement que moi, j'étais au Cameroun. Et j'étais en exil au Cameroun, c'est-à-dire j'étais au Cameroun, mais c'était ma terre, mais je vivais pas, j'avais pas la culture qui me permettait de vivre au Cameroun, j'avais la culture qui me permettait de comprendre mieux l'Occident. C'est pour ça que j'ai dit, j'étais comme un tournesol dirigé vers l'Occident. Et arrivé à Paris, c'était quelque chose de magique, ça se produit, c'était que lorsque je me promène dans les rues de Paris, je vois les noms des auteurs, qui sont les auteurs que j'ai lus dans mon enfance. Arrivé à Paris, je me rappelle de mon enfance. Il y a des liens comme ça qui se créent. Même au Cameroun, tous ces auteurs-là, il n'y avait pas de rue avec le nom de ces auteurs. C'est pour vous dire à quel point c'est souvent paradoxal, cette histoire avec l'exil et tout. On se retrouve en train de créer peut-être une autre vision du monde. Et heureusement qu'il y a la musique qui me permet de créer des ponts très, très, très sains et sereins entre ces deux cultures.
Et là, le pont a été tout tracé avec Maria Callas, dont la mère ressent le besoin très fort de retourner sur sa terre natale, quitte à couper tout le lien avec le père et emmener ses deux filles en Grèce, dans le Péloponnèse, pour retrouver ses racines et former sa fille à ce qu'elle croit être son avenir, bien qu'elle semble pas tout à fait tendre par rapport au talent visible de sa fille. On va pouvoir en parler dans quelques instants, après cet extrait de Rigoletto que l'on entend presque interpréter dans votre bande dessinée, Gaspard Njoke, La Callas, L'enfance d'une diva, qui vient d'être publiée aux éditions Nouveau Monde.
ne hai.
Quando mi avete?
A te che importa?
Se non volete di voi parlarmi.
Non uscir mai.
Che al tempio.
Oh, ben tu fai.
Callas et Tito Gobbi dans cet extrait de Rigoletto de Verdi, Figlia mio padre, avec l'orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, le chœur du Théâtre de la Scala de Milan, sous la direction de Tullio Serafin, un extrait que l'on entend, que l'on voit interprété dans votre bande dessinée, Gaspard Njok. Et je me disais là, étant donné que c'est une adaptation d'un drame de Victor Hugo, Le Roi s'amuse, écrit en 1851 par Verdi, finalement tout se recoupe. C'est-à-dire que l'auteur français que vous avez lu est réadapté par un compositeur italien que vous découvrez en allant en Italie. Et puis vous racontez l'histoire d'un exil à l'envers, celui que vous éprouvez vous-même, Gaspard Njok. Et dans le cas de la bande dessinée, elle interprète un rôle tragique entre un père et sa fille dans Rigoletto.
Je pense que c'est difficile de trouver un air où il y a une passion aussi forte entre un père et une fille. Donc voilà, c'est et celui qui me fait vraiment vivre ça plus fort, c'est le baryton italien Leo Nucci. Alors pour moi c'est Nucci, c'est Rigoletto. Et pour moi c'est lui alors qui m'a fait aimer le personnage. Tension très forte aussi avec son interprétation avec Nadine Syrah. Tous les deux, c'était le couple, la vieille génération avec la nouvelle qui monte en force, Nadine Syrah. C'était tous les deux ensemble, ils ont fait un très 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 beau Rigoletto.
Vous, par rapport à la décision d'écrire sur la Callas, Gaspar Enjoc, qu'est-ce qui vous a frappé dans son histoire et qui vous a décidé à écrire une bande dessinée sur elle?
J'ai lu plusieurs livres sur la Callas. Je plaisante souvent avec des amis en disant que après Jésus, c'est Maria Callas. On écrit tellement de choses sur ces dames. Maria Callas, c'est la cuisine. Maria Callas, c'est le cinéma. Maria Callas. On a tout dit. N'importe qui, un peu, trouve légitime de dire quelque chose sur Maria Callas. Je pense que lorsqu'un personnage arrive à créer ça chez les personnes, ça veut dire que ce qu'elle a fait vraiment est très 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 grand. Et donc moi de mon côté, ce qui m'a donc permis de vouloir écrire quelque chose sur la Callas, c'est que je me suis rendu compte qu'en général la critique était très dure avec elle. Très dur, bien que on se rende compte de ce qu'elle a fait, on était très dur, on dit elle était très capricieuse, elle a permis de s'arrêter de chanter en Italie en présence du chef d'État, elle a arrêté des concerts parce qu'elle disait que bon voilà, elle se sentait pas bien avec sa voix, tout ce côté-là. On a mis ça au premier plan, surtout avec son divorce avec son mari italien Meneghini. Tout ça, on a mis ça en sa défaveur. Je me dis mais comment la critique a été si dure avec cette femme. Et ce que j'ai fait, c'est aller donc interroger son enfance pour voir. Je me suis dit, mais pourquoi les gens sont si durs? Je veux voir. J'ai dit, bon. Et la question que je me pose, c'est de dire ceci. Moi, je vous défie d'avoir une enfance qu'elle a eue et de réaliser le quart même de ce qu'elle a accompli. C'est un peu cette thèse que la bande dessinée défend. Je vous défie, vous, personne dure à l'égard de Maria Callas, d'avoir le quart de ce qu'elle a vécu. Elle n'a jamais reçu l'amour d'un père, d'une mère. Et elle a vécu la guerre civile où elle a failli mourir de faim. Et bon, le lien avec même le personnage qu'elle interprète dans La Traviata est très, 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 très étroit. Avec aussi le livre dont ça provient, le lien est très, 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 très étroit. Voilà.
Je vous propose qu'on écoute un autre extrait d'opéra illustré dans votre bande dessinée, Gaspar Enjoc.
Merci.
Last mich sterben, l'acte 2, scène 2 de Tristan et Isolde de Wagner, par le Staatskapelle de Dresde, le chœur de la radio de Leipzig, sous la direction de Carlos Kleiber, avec Margaret Price et René Collot. C'est intéressant parce que, en fait, quand on écoute cela, quand on lit la bande dessinée que l'on vous écoute, Gaspard Njok, on se dit, au fond, qu'elle est une tragédienne, elle est une personne de tragédie, Maria Callas, et que ses rôles lui vont parce qu'ils sont presque évidents.
Évident, oui, dans la mesure où, par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais, je dis, elle, c'est vraiment la vérité sur l'opéra. Avant elle, par rapport à ce qui est écrit, il est difficile de trouver quelqu'un avant elle avec ce charisme du point de vue de la vérité. Les autres avant, c'était vraiment des interprètes. Elle, c'est le théâtre qui entre à l'opéra. Et elle, avec son vécu, avec, j'imagine, quelqu'un qui a vécu tout ce genre de choses, ça ne peut qu'être évident. Donc, pour pouvoir illustrer ça, le plus souvent, on cite la Tebaldi pour dire, bon, voilà un peu le contre-exemple de la Callas. Voilà, on a le contre-exemple parce que d'un autre côté, on a une voix très claire et pure. Mais on peut dire tant de belles choses sur Maria Callas, mais je ne pense pas qu'on dirait de même pour la voix, en fait.
Vous êtes venu plus tardivement à Wagner. Il apparaît avec des couleurs d'ailleurs soudaines qui changent complètement l'esprit de la bande dessinée. C'est bien sûr volontaire de votre part, Gaspard Njok. Wagner, c'est un compositeur qui est venu plus tardivement et qui semble encore plus vous emporter.
Oui, je pense que c'est ça qui caractérise toute personne qui arrive à Wagner. Il y a ce côté un peu magique. Moi, j'aimais l'opéra italien avant. Je continue à aimer. Mais quand j'écoute Wagner, je dis, bon, Wagner, c'est autre chose. Chaque opéra, c'est un moment de ma vie en particulier, très fort. Et je dis souvent aux gens, bon, je suis triste avec le rapprochement qu'on fait avec cette musique, avec le passé, avec le nazisme. Mais je dis, et j'ai dit quelquefois que je comprends même, parce que vraiment, c'est une musique qui porte à l'action. Et là, pour le coup, c'est une action négative. Cette musique a cette capacité, à mon avis, de catalyser les émotions. Je pense qu'il y a Verdi qui a cette force aussi. On l'a vu aussi avec la force qu'il a eue pour l'unité d'Italie. Wagner, c'est ça, il me donne une force, ça dit... Moi, j'ai un épisode de Lohengrin que j'ai écouté à la Monnaie. À Bruxelles, avec mise en scène par Olivier Py. Bruxelles, bon, c'est une belle ville, hein, mais c'est souvent gris. C'est souvent très gris. Mais je veux dire, après ce Lohengrin-là, lorsque j'étais sorti de l'opéra, j'avais senti tout autour de moi comme s'il y avait enfin de la lumière, quelque chose, je sais pas, c'est ça que l'opéra donne, de l'espoir. Mais il faut savoir quand même entrer, comprendre les messages, il faut être comment ça, disponible à recevoir ce que ce genre d'art peut te donner.
C'est sans doute pour ça qu'il y a ce moment fort en couleurs que je laisserai aux auditeurs découvrir en vous lisant, Gaspard Njok. On arrive presque au terme de cette émission. Je crois que la première œuvre qui vous a fait entrer dans Wagner, c'est Le vaisseau fantôme. Donc je propose qu'on l'écoute et que vous nous expliquiez ce qui vous a transporté. L'ouverture du vaisseau fantôme de Wagner par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein. C'est un opéra fantastique. Hein. Il semble combler à la fois les fous de Wagner et ceux qui sont plus attachés à l'opéra italien et qui s'y retrouvent aussi. Gaspard Njok, c'est peut-être ce chemin-là que vous avez emprunté.
Oui, effectivement, parce que les opéras wagnériens, bien qu'ils peuvent avoir quelque chose un peu de rebutant pour ceux qui aiment l'opéra italien, avec l'utilisation des cuivres, au même moment, je trouve que ces cuivres, Wagner les utilise de manière assez délicate, très charmante, avec confiance souvent des très 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 belles mélodies. Dans plusieurs de ses opéras, c'est le cas d'ailleurs. Déjà dans cette ouverture, il y a une section qui représente Senta, qui me touche aussi. Inutile d'aller chercher d'un point de vue disons musicologique en faisant peut-être une étude, mais vraiment ça me touche. Je serais l'expliquer, c'est comme ça. Et bon, ça c'est un des opéras qui m'ont beaucoup marqué aussi.
Gaspard Njok, vous êtes dessinateur, illustrateur, vous venez de signer une très belle bande dessinée qui s'appelle La Calasse, l'enfance d'une diva, parue chez Nouveau Monde Édition. Finalement, vous êtes un musicien du pinceau, on pourrait dire ça?
Je sais pas, mais je suis quelqu'un qui voit le monde à travers, les couleurs musicales, hein, disons, comme ça. Parce que pour moi, je travaille dessus, je pense que ce sera le travail d'une vie. Hein. Pour moi, la couleur, c'est le sens. Et au-dessus de ça, donc, c'est la couleur musicale. Donc, à travers la couleur musicale, on peut dériver plusieurs couleurs, mais pour moi, la couleur, vraiment, l'orchestre, avec toutes ces différentes sections et tout, c'est ça qui crée vraiment la couleur. Et ça, c'est vraiment la couleur fondamentale. Il y a quelque chose aussi de fondamental vraiment dans le son. Hein. Par exemple, surtout, je dirais ça à l'opéra, ce qui est important, ce ne sont pas vraiment les paroles, parce que la plupart du temps, on ne comprend même pas ce qu'ils disent. C'est la tonalité, c'est la couleur avec laquelle les gens le disent, c'est ça qui fait sens. Donc, le logos même, tu le trouves même dans le son, dans le ton, dans la couleur, que dans, même dans les mots. Donc, le logos, les couleurs ont un son, ont un logos qui le sont intrinsèque, en fait. Donc, c'est ça qui me passionne. Donc, voilà.
Belle conclusion, Gaspard Njop, avant de se quitter. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage qui s'appelle La Calas, l'enfance d'une diva, paru chez Nouveau Monde, que je recommande vraiment à nos auditeurs parce que c'est une façon d'appréhender Maria Callas par le petit bout de la lorgnette de l'enfance et de l'exil. Et bien sûr, en résonance avec votre histoire, c'est toujours passionnant de faire des correspondances entre chacun et chacune des histoires. On va se quitter avec, je crois, Merci. Le quatuor de Rigoletto. Parce qu'il paraît que vous le chantez. Voilà. Vous savez le chanter sous votre douche.
Ah oui, j'ai fait. Je fais les quatre voix en même temps, mais je vais pas me permettre là. Mais
vous m'en offrez une avant qu'on se quitte.
Bella figlia dell'amore, schiavo son d'invezzi tuoi, con un detto sol, tu puoi. Bon, je m'arrête là parce que j'ai pas le souffle des grands ténors, mais bon, voilà. Merci.
Merci beaucoup, Gaspard Njok, d'avoir participé à Musique et moi ce matin. On va vous lire, on va s'empresser d'aller chez les libraires pour lire La Calas, l'enfance d'une diva. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous et on va se quitter avec le vrai, une interprétation, mais la vôtre était vraiment fabuleuse.
Oui, la vraie.
Merci beaucoup.
Ouais. Merci à vous.
Merci.
Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi. Le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpito.
quatuor Bella Figlia dell'Amore, acte 3 de Rigoletto de Verdi, interprété par Giuseppe Di Stefano, Adriana Lazzarini, Maria Callas et Tito Gobbi, avec l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan sous la direction de Tullio Serafine. Pour terminer cette émission en compagnie de Gaspard Enjoc, qui était l'invité de Musique et moi, je rappelle le titre de sa bande dessinée La Callas, l'enfance d'une diva, paru chez Nouveau Monde Édition. Je remercie vivement Xavier Atto à la prise de son, réalisation Jean-Charles Dieval, attaché de production Marie-Ferdinand. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique et je vous dis à dimanche prochain, 11h.
À réécouter sur francemusique.fr.